France Inter. .fr.
Marins de toutes les mers, aviateurs de tous les ciels, artilleurs, fantassins, cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
XIV-XVIII, Belgique et France occupées.
Des géants furieux se dressaient sur l'Europe, les aigles quittaient leur aire attendant le soleil, les poissons voraces montaient des abîmes, les chiens aboyaient vers là-bas où étaient les frontières, les peuples accouraient pour se connaître à fond. Je m'en allais, portant en moi toutes ces armées qui se battaient. Je les sentais monter en moi et s'étaler les contrées où elles serpentaient, avec les forêts, les villages heureux de la Belgique, Francorchamps avec l'eau rouge, et les Pouons, région par où se font toujours les invasions.
Apollinaire, dans sa petite auto, s'en va pour s'engager. En août 14, l'état-major allemand a choisi de déferler sur la Belgique pour atteindre la France. Les dés roulent, les hommes tombent. À la fin de l'été, la Belgique presque tout entière et une dizaine de départements français, totalement ou partiellement, entrent dans une longue période noire qui va leur paraître interminable. Les civils de citoyens qu'ils étaient se retrouvent dans une situation qui rappelle l'esclavage à l'ancienne, à moins qu'elle n'annonce les pires formes de la coercition moderne que notre siècle se chargera ensuite d'améliorer, avec déjà à l'horizon les camps de concentration, les miradors et les barbelés électrifiés. Il est arrivé que dans les tranchées, les hommes finissent par se comparer aux rats qui leur disputaient l'espace. Dans les régions de 14-18 qui vont nous intéresser aujourd'hui et qui font déjà figure de laboratoire, les occupants savaient-ils qu'ils inauguraient une époque où non seulement les hommes, mais les femmes, les enfants devraient apprendre qu'ils pouvaient être effectivement des rats. Annette Becker, bonjour.
Bonjour.
Grande historienne de référence de la Grande Guerre. Merci d'être un instant avec nous, parce que vous avez un agenda incroyable. Vous avez le pied ailé. La guerre rend le pied ailé, disait Junger. Et là, vous revenez
de Lettonie. Très intéressant sur le front Est, pays occupé d'ailleurs, quelques mois pendant
et
la
puis,
Grande Guerre.
Vous êtes allé à Ypres.
J'étais à Ypres récemment, qui est le haut lieu des champs de bataille des Flandres, pour les Britanniques surtout.
Tout de même, vous avez une base à Lille. C'est une des raisons pour lesquelles, il y a peu d'années, vous avez consacré un livre qui s'appelle « Cicatrices rouges » à ces zones occupées. Ce livre est publié chez Fayard. Vous avez aussi fait un livre sur Apollinaire qui évoque donc dans le poème dont on a mis un bref extrait, le plan de l'état-major allemand qui froidement prévoyait de déferler sur la Belgique avant de pouvoir s'installer en France. L'armée allemande ne pensait pas qu'elle allait être ralentie par l'armée belge. Et une fois qu'elle l'a été, alors tout d'un coup, elle s'est fait une représentation du danger incroyable.
Oui, on voit que la guerre, c'est aussi quelque chose d'imaginaire. Ils pensaient que traverser la Belgique, ça serait une partie de plaisir. Or, l'armée belge a résisté. Et ils ont à ce moment-là pensé que ce petit pays ne pouvait pas résister. Donc c'était des civils, donc c'était des francs-tireurs. Et donc tout Belge est devenu un ennemi, d'où la répression féroce qui s'est abattue sur ces civils et ces atrocités allemandes auxquelles désormais il ne faut plus mettre de guillemets.
Parce que quand vous étiez formée à votre métier d'historienne, on mettait des guillemets.
On mettait des guillemets parce que de façon très intéressante, que l'historien Marc Bloch avait vu très tôt, eh bien, ce sont les rumeurs qui l'ont emporté. Et en particulier, une rumeur assez étonnante, qui est que les Allemands coupaient les mains des enfants belges, puis des enfants du nord de la France.
Mais Marc Bloch disait en 21, dans cet article que vous citez, qu'il fallait avoir déjà dans la tête la représentation de ces atrocités. Il y avait des partitions de musique qui les présentaient déjà, des textes qui les imaginaient, pour qu'elles aient lieu.
Absolument. On en était tellement persuadés qu'elles avaient forcément eu lieu. Ce qui est bizarre, c'est que ce qui a vraiment eu lieu, c'est des assassinats d'otages, des incendies et énormément de viols. Et le passage entre le viol, l'assassinat et la main coupée n'est pas évident. Mais c'est ce qu'il a emporté dans les mémoires.
Mais des enquêtes sont faites très vite, à charge du côté français et du côté belge. Et en réponse, les Allemands tentent de se défendre. Alors voici un document dont la date d'origine doit être 14, fin 14 ou début 15, qui suit peut-être le livre blanc qu'essayent de rédiger les Allemands à cette époque. C'est un document de contre-propagande de forme beaucoup plus populaire que le livre blanc, tiré de la collection de Jacques Bernard, toque à la porte de Français ou de Belges occupés, un officier allemand.
Ouvrez, ouvrez.
Ah, bonjour, madame.
Nous sommes là pour l'installation.
Pitié pour moi et mes enfants innocents.
N'ayez pas peur, on va pas vous manger.
Non, pas moi, mais mes pauvres enfants.
Mais dites-nous, ma petite dame, qui vous a raconté ce bobard?
Notre mère, il a dit que les barbares allemands dévorent les petits-enfants, qu'ils fusillent tous les prisonniers. Mon pauvre mari, il est aussi en captivité, alors qu'il est, certainement déjà fusillé.
Et alors, vous croyez de telles sornettes? Mais passez donc votre rejeton à mon copain Hans. Il va s'en occuper un peu, il est un peu nounou. Il a lui-même 6 enfants à la maison. Allez, préparez-nous un peu de quoi nous restaurer.
Ah, mon Dieu, mais c'est que je n'ai plus rien à la maison. Nos soldats ont tout pillé.
Ah, c'est quand même une sacrée bande de malfrats. Ils volent leurs propres compatriotes. Nous, les Allemands, on a apporté tout ce qu'il faut avec nous. Allez, les gars, montrez ce que vous avez apporté.
Voilà, lardons, café. Je vais chercher des pommes de terre, d'accord?
Et c'est ça qu'on appelle les barbares? Ouh, la France, la honte!
Merci à Sophie Becherel pour la traduction, qui n'était pas aisée, parce que... on entendait des accents fort différents. Il y avait d'ailleurs du côté allemand des Prussiens et des Bavarois.
Oui, bien sûr. Toute l'Allemagne était là. Et donc, des accents différents, des langues différentes, des religions différentes aussi. Ce qui est très intéressant dans le document aussi, c'est qu'on voit ce mélange de la peur pour le soldat, mais que très rapidement aussi, ces soldats... ceux qui restent, en tout cas, en territoire occupé, sont des gens plus âgés, qui ont des familles. Ils parlent de ces 6 enfants et qu'il peut y avoir une espèce d'intimité qui se fait tout en gardant son compte à soi parce que ce sont les ennemis.
L'intimité, elle vient du temps passé aussi parce que aussitôt après cette première période marquée par des atrocités, l'occupation que les habitants civils de ces régions se refusent à nommer comme telle, ils parlent toujours d'invasion, s'établit durablement. Peut-être moins arbitraire d'ailleurs en Belgique qu'en France occupée.
Oui, parce qu'en France occupée, on est sur la ligne de front. Donc on est occupé par les militaires. Et donc les conditions sont militaires. Alors qu'en Belgique, c'est un gouvernement général, bien qu'il y ait un militaire à la tête, les civils ont quand même la continuité de leur vie d'avant, ce qui est impossible dans le nord de la France.
Le gouverneur général de Belgique se dit que peut-être un jour les Belges pourraient entrer dans le Reich à la fin de la guerre, non?
Oh, il y a quelques idées, plus que le gouverneur général de Belgique, avec toutes sortes d'intérêts pour la partie flamande de la Belgique, bien sûr, qui sont considérés comme des Allemands, ce qu'ils n'aiment pas du tout, d'ailleurs.
Alors, il faut considérer par catégorie les populations, selon leur origine, selon leur place géographique. Certains sont qualifiés par les Allemands de bouges inutiles.
Oui, parce que la situation qu'ils trouvent, en particulier dans le nord de la France, c'est que les hommes sont partis à la guerre et sont là surtout des femmes, des enfants et des vieillards. Et les plus pauvres, ceux qui n'arrivent pas à se nourrir sont des bouches inutiles, d'autant plus que les Allemands aussi ont des difficultés à se nourrir.
Et donc, à ce moment-là, on va les expulser.
C'est ce qu'on appelle les évacuations, évacuations forcées d'indigents. Et ces indigents vont faire un trajet absolument épouvantable, puisqu'ils ne peuvent pas traverser la ligne de front. Donc ils vont aller à travers la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, et rentrer de nouveau en France par la Suisse, par Lyon.
Et ils ne vont pas toujours être accueillis durablement, en tout cas, avec faveur. Il viendra même un moment où certains les appelleront en France, les Boches du Nord.
Alors, compatriotes ne les aiment pas beaucoup.
Ouais. Vous parlez des femmes et de celles qui demeurent. Vous avez beaucoup utilisé pour votre livre les journaux. Il en ressurgit d'ailleurs de plus en plus. Hein.
Les journaux sont une source absolument extraordinaire. Écrire son journal était vu, déjà à l'époque, comme une œuvre de résistance. Et beaucoup de femmes écrivent leur journal. Et ces journaux sont absolument extraordinaires. Ils n'ont pas été touchés depuis 1916, 1917. Ce sont des sources qui nous donnent vraiment cette photographie de ce temps.
Ici, il est répandu sur Internet avec la voix de Monique Van Alst. C'est un extrait du journal d'une paysanne qui tient une ferme avec le pépé en l'absence du mari à Somain. C'est à côté de Marchienne. Marchienne est à côté de Douai.
15 avril 1915. C'est à la lueur d'une lanterne que j'écris. Le canon qui s'était tué depuis 8 jours a recommencé hier. Les Allemands qui sont arrivés dimanche, se sont installés chez maman. La vache noire a donné son veau vendredi soir, juste à l'heure de la traite. Aussi, ce sont les Allemands qui ont aidé à tirer. C'est très aimable de leur part. L'un d'eux a donné 2 œufs colorés à Albert. Ils ne sont pas méchants ni voleurs. Quel mal avons-nous eu pour leur faire comprendre que nous ne pouvions pas les nourrir. Samedi dernier, les inscrits ne s'étant pas présentés à leur dite, ils ont emmené prisonniers le conseiller et le maire de Marchienne. On ne rencontrait plus personne dans les rues. On avait peur d'être arrêtés. Mardi, ils ont fait faire le recensement. Pourquoi? On ne le sait pas. Mercredi, il a fallu déclarer les chevaux et l'on doit les conduire à Marchienne vendredi sous peine d'amende. Quand ils arrivent, quelle journée on passe?
Alors l'intimité fait qu'on apprend à voir des hommes de l'autre côté, qui ont été peut-être des paysans, vous disiez qu'ils sont des pères de famille, et néanmoins, il reste les ennemis qui prennent en otage, par exemple, les conseils municipaux.
C'est les ennemis et c'est la guerre totale. Donc ces territoires sont désormais les leurs. Et sur ces territoires, ils veulent absolument que tout vienne chez eux. Donc ils réquisitionnent absolument tout et ils mettent au travail forcé. Quand elle parle des inscrits, là, il s'agit d'inscrits pour le travail forcé qui n'ont pas voulu venir. Et la punition, c'est que le conseil municipal, les notables, sont pris en otage et ils vont certainement être envoyés en camp en Allemagne.
Vous parlez de la réquisition des hommes qui portent un brassard rouge, comme à l'époque on portait, pour marquer le deuil, un brassard noir. Vous parlez de la réquisition des objets, vous faites des listes, c'est étonnant, quoi. Les pneus, les clôtures de fil de fer, la laine des matelas.
Les Allemands, comme tous les belligérants, ont besoin de tout. Et comme ils souffrent énormément du blocus, ils souffrent aussi d'ailleurs du fait que leur grand, par exemple, producteur de blé étaient les Russes. Ils ne peuvent plus avoir de contact avec les Russes. Et donc, ils essayent de trouver tout ce qu'ils peuvent dans les territoires qu'ils occupent. C'est vrai sur le front occidental, mais c'est aussi vrai sur le front oriental.
Et alors, notamment en matière de ressources alimentaires, comme dit un secrétaire d'État allemand ouvertement, s'il faut que des gens meurent de faim, il vaut mieux que ce soit d'autres personnes que les Allemands. À la fin, on répond par des délits d'affamés. Voici ici le récit de Georges Simenon, qui était à Liège avec sa famille et qui s'étonnait de voir son père, qu'il admirait tant, voler des œufs. Quant à sa mère...
Il était interdit d'entrer des vivres dans la ville. Eh bien, ma mère avait une amie d'enfance qui avait une ferme à 15 km de la ville. Nous allions à 15 km à pied, ma mère et moi, j'avais 12 ans et demi, 13 ans, et ma mère avait un jupon de dessous, car on avait encore des jupons de dessous à ce moment-là, où il y avait des piqûres toutes les 2 cm, des piqûres verticales. Chez son ami, On prenait un entonnoir, on mettait du blé dans chacune de ces petites veinures, si je puis dire, vous voyez ce que je veux dire, si bien que le jupon de dessous finissait par tenir près de 10 kilos de blé. Et ma mère et moi, nous revenions vers la ville. Or, il y avait toujours une sentinelle allemande. Alors, il y avait un petit scénario qui était arranglé d'avance. Je devais me mettre à pleurer et ma mère à me flanquer des gifles. Et nous discutions et je pleurais, me flanquais des gifles. Si bien que l'allemand qui était là en garde tout apitoyé ne pensait pas à regarder les jupons de ma mère.
Lettre d'un Américain, dont vous direz un mot, Annette Becker, dans un instant, au président de la République, Poincaré. Si votre Excellence pouvait voir les foules de femmes et d'enfants entourer le moindre casernement allemand du matin au soir pour tenter de récupérer leurs déchets. C'est le futur président américain Hoover qui est très conscient de la situation, qui écrit ça au président de la République française.
Herbert Hoover, qui est connu pour n'avoir rien compris à la crise de 1929, il voyait la prospérité au coin de la rue, a été un des grands fondateurs de l'humanitaire au XXe siècle, et en particulier pendant la Première Guerre mondiale. Et si Herbert Hoover n'avait pas organisé de façon très intelligente le ravitaillement de la Belgique et du nord de la France, ces populations seraient très certainement mortes de faim. Et ça paraît même incroyable qu'une telle aventure humanitaire soit encore aujourd'hui si peu connue.
Alors on rappelle les faits militaires maintenant, au milieu de l'émission, Annette Becker, pour que nos auditeurs saisissent bien l'imbrication des lignes. Il y a une carte dans votre livre, Les cicatrices rouges chez Fayard. Il y a la minuscule armée belge, là, avec le roi soldat du côté de l'Isère. Il y a la puissante armée allemande, l'armée française. Les Britanniques sont là et quand on dit Britanniques, il faut entendre des ressortissants d'un peu tout l'Empire.
C'est la guerre mondiale. Et s'il y a un endroit où c'est vraiment la guerre mondiale, c'est bien là. Parce que les Britanniques sont tout proches de leur base arrière, puisqu'ils débarquent sur les côtes de la Manche, et bien sûr, avec tout leur empire. Donc, il y a ici plus de pays et d'habitants qu'on n'en a jamais vu dans toute l'histoire.
Armentières devient ainsi un centre mondial. Je parle d'Armentières parce qu'on va entendre là, interprété par Lynn Renault, Mademoiselle from Armentières. C'est un personnage historique, une jeune femme qui a inspiré l'héroïne d'Armentières qui est là, rencontrant à 3-4 kilomètres de la ligne de front les soldats et les officiers de tout l'Empire britannique.
Un joli sourire de France, des fossettes aux joues, des cheveux tout fous, des yeux bleus très doux. Sur son berceau, dès sa naissance, une bonne fée, d'un coup de baguette, avait changé sa destinée. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Elle n'avait pas encore parlé, qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle from Armentières. Mais un matin, ce fut la guerre et tous les soldats qui passaient par là se disaient tout bas, la voyant si belle et si fière, à qu'on serait bien blottie dans ses bras douillettement jusqu'au matin.
Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous.
Mademoiselle from Armentières, never been kissed for 20 years. Hinke-pinke, parlez-vous.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Annette Becker, nous parlons des zones occupées où les lignes sont si imbriquées que les femmes habiles du côté français à chuchoter à l'oreille des Britanniques peuvent être habiles de l'autre côté à transporter du blé dans leurs jupons ou bien à organiser des réseaux, des exfiltrations, des passages.
Oui, les résistances dans cette période de la Grande Guerre sont des résistances qui ressemblent énormément à celles que l'on connaîtra pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'abord, elles ont voulu essayer de faire passer les hommes qui étaient pris dans les lignes, et en particulier des Britanniques qui se trouvaient hors de leur ligne parmi les Allemands, et elles essayent de les faire passer De l'autre côté, certains ont passé de nombreux mois dans les territoires occupés. C'était très, très dangereux. Elles risquaient, bien sûr, leur vie. Je dis « elles » parce que c'était principalement des femmes qui étaient présentes et qui travaillaient, certaines, dans des grands réseaux au service des réseaux britanniques ou des réseaux français. Et il n'y avait d'ailleurs pas de différence entre les Belges et les Français. On voit bien que l'occupation était un seul grand territoire.
Ici, la sœur de Louise Tulliez va faire le portrait de cette héroïne. Vous dites, on n'est pas obligé d'utiliser le mot « résistance » avec des guillemets, parce qu'au fond, ce qui se passe en 14-15, là on va être en 14-15, annonce ce qui se passe en 40. Louise Tulliez, elle va faire comme ça la guerre de 14 et elle va se retrouver dans des réseaux à Clermont-Ferrand et dans
pendant
des
maquis
dans la montagne française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette interview date de 1966, c'est sa sœur.
Après la bataille de Charleroi, les troupes repassèrent en désordre et ils avaient beaucoup de blessés. Alors, comme ils en avaient beaucoup trop, qu'ils ne pouvaient pas les caser partout, on en mit six chez Mademoiselle Moriamé, qui était une amie de ma sœur. Alors, elles ont pensé au château de Bellini, qui était très grand, et elles sont allées trouver la princesse de Croix, qui très aimablement a mis une grande pièce à leur disposition. C'est pour ça qu'elle a été arrêtée à Bruxelles. Elle était avec beaucoup d'autres, dont la comtesse de Belleville, et puis Louise de Bétigny.
Toutes les grandes résistantes
toutes les
de
grandes,
l'époque.
Oui.
Et votre sœur fut condamnée à mort.
Elle fut condamnée à mort, oui. Vous savez, si j'ai été saisie, mais alors on a révisé le procès. Et 15 jours après, j'ai appris qu'elle était condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Elle a été enfermée à Saint-Gilles avant de partir en Allemagne. Mais elle a été 3 ans. Hein.
Beaucoup de noms symboliques sont cités ici. Louise de Bétigny, qui va se retrouver dans la même forteresse dans des conditions difficiles. Elle y mourra, elle, en
oui,
Allemagne.
De maladie, d'ailleurs.
Que Louise Tulliez. Alors, le transport en Allemagne de ces femmes, celles-là sont désignées par des procès, mais il peut y avoir des déportations de groupes de femmes aussi en Allemagne.
Oui, il y a plusieurs sortes de déportations. Il y a des déportations d'otages. Et ces otages sont transportés, comme les résistants d'ailleurs, dans des trains et dans des voitures qui sont déjà complètement fermées. Et ça peut durer 3 ou 4 jours. On les ravitaille plus ou moins. Mais c'est déjà des conditions épouvantables. Il faut voir ce que c'est que pour ces femmes et ces enfants, quelquefois, qui les accompagnent, qui doivent traverser absolument toute l'Allemagne pour se retrouver en un territoire totalement inconnu, avec une langue inconnue, dans un camp. Et un camp, cela veut dire des barbelés, cela veut dire des miradors. Et pour la plupart d'entre eux, ce sont des déportations, je dirais, qui sont là pour faire pression sur les ennemis. Et donc, on ne les met pas au travail forcé, pas du tout. On les laisse dans le camp, où ils s'ennuient terriblement, où ils vivent grâce aux colis qu'ils reçoivent, parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Mais en revanche, pour une série d'hommes, et en particulier pour énormément de Belges, beaucoup plus que de Français, on va les déporter pour le travail forcé. Et certains vont vivre des aventures absolument épouvantables. Travailler dans des mines, travailler dans les marais énormément, avec un taux de mortalité assez important. Et dans les deux cas, on parle de camps de concentration. Surtout, ne pas mélanger avec la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas un système concentrationnaire, mais c'est une façon d'utiliser des population qui, malheureusement, était du mauvais côté de la ligne de front.
Cependant, c'est comme un laboratoire, dites-vous.
Oui, c'est un laboratoire.
Ces zones occupées de ce qui va s'imaginer après, dans le siècle.
Je tiens au mot laboratoire, mais il faut peut-être ajouter inconscient. Parce que on n'a pas volontairement voulu en faire ces cobayes. Mais une fois qu'ils ont été cobayes, eh bien, on a appris à maltraiter les populations civiles. Et après, ça n'a fait que croître et embellir.
Printemps 1918, la guerre de mouvement reprend ici. C'est le témoignage d'Augustin Viseux, fameux mineur, l'auteur d'un grand livre de la collection Terre humaine. Il était très jeune adolescent au printemps 1918.
On est revenus, nous autres, au mois de mars 1918. Ben, c'était pas gai, hein. Tout ce qu'on avait, il y avait une malle, il y avait un bois de lit, un matelas. Mon père, il avait ses outils. Il avait un pic, une pelle et une hache. On a trouvé une cave, ma père a pris une hache et est allé chercher une porte. Il a fait un poussard, il a monté le plumeur, puis on a couché à quatre en travers du lit. Il y avait des rats. Ben, malgré ça, eh ben, mon père et ma mère, ils chantaient encore. Mon père, il faisait le tyrolienne. On a fait du café, là, un peu de ravitaillement, sur quatre briques et puis des bouts de bois qui brûlaient. Et puis aller en route comme ça. Il n'y avait plus de sous. Il a bien fallu que les hommes ils se remettent au boulot, aller travailler au déblaiement pour 14 francs par jour. Ceux qui gagnaient le plus, c'était les artificiers. Mais nous autres, faisons bien l'artificier, mais n'avons pas le droit de le dire.
C'était l'époque où à la télévision, il y avait un magazine du mineur d'où est extrait ce témoignage. C'est curieux quand même que, en dépit de propos comme celui-ci recueillis parfois, l'écho soit comme assourdi. Justement dans les régions où l'occupation a eu lieu. Votre livre n'a pas donné lieu à des manifestations publiques quand il est sorti dans le Nord-Pas-de-Calais.
Non, mais c'est bien vendu quand même. Les gens s'y intéressent, mais pas de manifestations. Mais je crois qu'il le dit très nettement. Il parle de son père arrivant dans une région totalement dévastée, mais chantant. Pourquoi est-ce qu'il chante ? Parce qu'il est revenu chez lui. Et c'est ce patriotisme des gens du Nord et ce patriotisme des Belges qui est très, extrêmement frappant. Mais qu'est-ce que ça veut dire être patriote en 14-18 ? Ça veut dire faire la guerre. Et donc, eux, ils ont eu une vie différente. Ils ont eu une vie d'occupés. Ils ont eu une vie de civils. Et on veut se rappeler seulement les militaires. Et donc, finalement, de quoi on va parler ? On va parler des hommes du Nord qui ont fait la guerre à Verdun, comme tous les autres, puisqu'ils étaient, bien sûr, partis à la guerre. Et d'ailleurs, les monuments aux morts du Nord montrent des soldats comme les autres monuments aux morts. Il n'y a que quelques poches très très rares où on rappelle les désastres des civils.
Je peux revenir sur le mot patriotisme belge que vous avez évoqué. Vous revenez d'Ypres. Je lis dans Le Monde peu d'initiatives prises pour le centenaire par l'État fédéral belge. La plupart des initiatives viennent de la région flamande. Et ce sont les francophones qui, du coup, disent que la lecture qui est faite de la guerre est partisane, que le mot belge est très peu utilisé par la mémoire flamande officielle.
Bien sûr. Alors là, ce n'est pas l'histoire de 14-18 dont on est en train de parler. C'est celle d'aujourd'hui. Les Flamands essayent de prendre le pouvoir et pratiquement de se séparer de la Belgique. Et ils rappellent qu'en 14-18, ils n'auraient pas compris les ordres des officiers wallons parlant le français, ce qui est une totale légende.
Merci à vous. Ben, nous irons dans les cimetières de Belgique comme dans ceux du Nord demain avec Serge Barcellini qui va clore cette série consacrée à la guerre de 14, à la technique aujourd'hui, Xavier Chocron, la préparation, Elika Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard et la réalisation, Jacques Sigal.